salariée. Je me propose de prendre un secteur particulièrement accusé aujourd'hui de ne guère avoir le souci de l'environnement et des hommes en termes de responsabilité, celui de la lutte anti-habillement et de la mode, dans lequel j'ai travaillé comme économiste pendant longtemps, tout d'abord au service plutôt des organisations patronales, hein, de l'Union des industries textiles, dont je connaissais bien le textile habillement, et ensuite à l'Institut français de la mode, qui est une école de formation d'étudiants de très haut niveau au fonctionnement du marché de la mode. Voilà. Et de longue date, je me suis toujours intéressée à ces questions de, finalement, l'implication de la mode dans le monde qui nous entoure. Alors, je me propose, bon, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un PowerPoint parce qu'il y a des chiffres, etc. Ne vous inquiétez pas, il y a pas mal de textes sur certains, mais on ne va pas s'amuser à tous les lire. Vous les aurez ensuite et donc vous pourrez approfondir un certain nombre de choses. Ce que je me propose de vous présenter, c'est la manière dont un secteur fonctionne, ses implications dans l'environnement et le travail des hommes, tels qu'un certain nombre de médias, d'organisations non gouvernementales et aussi de plus en plus d'entreprises qui se posent elles-mêmes des questions et de consommateurs, tels que l'implication de ce secteur est ressentie par les différentes parties. Donc je me propose de vous expliquer, vous connaissez le secteur, mais d'essayer de revenir sur la façon dont ce secteur fonctionne. Et ce qui fonctionne de moins en moins bien aujourd'hui. Donc, mode et développement durable, un oxymore. Pourquoi un oxymore? Alors d'abord, cette phrase d'Honoré de Balzac, eh bien oui, ces choses, elles sont futiles en apparence, mais elles représentent des idées ou des cultures, et aussi des intérêts financiers, et ça, on le verra au long de cette présentation. Alors, pourquoi un oxymore? Mais tout simplement parce que durable, alors on pourrait dire soutenable, ce serait déjà plus acceptable, mais durable c'est mode, la mode ça implique le changement. Il n'y a que ce qui est nouveau qui a de la valeur. Donc c'est difficile de faire coïncider cela avec la durabilité. La mode c'est aussi une culture, c'est aussi le reflet d'une personnalité, et dans une société où on cherche de plus en plus à s'exprimer individuellement, eh bien le vêtement c'est un marqueur social et culturel. Même si les milliardaires de la Silicon Valley ont comme marqueur social le Bermuda et le T-shirt, mais c'est un marqueur social d'un milliardaire de la Silicon Valley. Troisième chose, eh bien, quel autre secteur que la mode depuis très longtemps est impliqué dans la globalisation? Alors, d'abord, on va commencer par voir les faits et chiffres concernant cette implication de la mode dans l'environnement et aussi la manière de découper les différentes étapes de sa chaîne de valeur et leur application, évidemment, dans l'environnement. Alors, tout d'abord, c'est un graphe qui vient de la Fondation Hélène Mercure. Alors, j'ai mis à jour les documents et j'en ai cherché des nouveaux spécialement pour cette présentation. Donc, à chaque fois, c'est des choses les plus récentes qu'on puisse trouver sur le sujet. Donc, la Fondation Hélène Mercure qui explique qu'on a une mode énergivore polluante et socialement mise en cause. Donc, d'abord dans la production de fibres, on va le voir, aussi bien au niveau de la culture et des pesticides, etc., du coton notamment, que tout ce qui concerne le pétrole et la pétrochimie pour les fibres synthétiques. Ensuite, dans la production de vêtements, et notamment là, on a effectivement le travail des hommes qui est de plus en plus asiatique, qui s'est déporté en Asie, et avec des conditions de travail et des salaires qui sont remis en cause aujourd'hui, enfin qui sont très critiqués aujourd'hui. L'usage, ben, vous savez que quand vous achetez un vêtement, vous allez le laver, et plus on le lave d'ailleurs, on le lave trop. Hein. Nous occidentaux, on lave trop nos vêtements, et notamment des fibres synthétiques se relarguent, et sont relarguées, après lavage, et puis après l'usage, eh bien, qu'est-ce qu'on fait de ces produits? Comment on les recycle? Et on en enfouit beaucoup, et on en... ça dépend des pays, on en parlera. Donc, le fait et chiffre rapidement, 150 millions d'arbres abattus pour fabriquer de la viscose, à base de fibres cellulosiques. Plus de 93 milliards de mètres cubes utilisés par ce secteur. 80 milliards de vêtements produits, c'est 900 milliards maintenant selon d'autres statistiques. Et 3 vêtements sur 4 dans le monde finiront dans des sites d'enfouissement. Et il faut savoir qu'on porte en moyenne dans les pays occidentaux 35 jours un vêtement. Je ne dis pas que vous l'achetez, vous portez 35 jours. Mais on le lave, etc. Mais il y a 35 jours, d'après un certain nombre d'enquêtes, ici, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, etc., c'est en moyenne 35 jours. Et 170 millions d'enfants travaillent dans la mode. Il y aurait 350 millions de personnes, mais je ne sais pas si c'est vrai, qui seraient impliquées aussi dans la culture de copie. Et pour satisfaire la demande, eh bien, de plus en plus, c'est dans des ateliers de confection asiatiques, voire même maintenant africains, pour satisfaire notre demande de consommateurs occidentaux. Faites des chiffres toujours. L'empreinte carbone, c'était 1,2 milliard de tonnes de gaz émise par l'industrie des filaments. C'est la fondation Hélène MacArthur. Bon, ça a l'air assez solide, c'est plus contesté. C'est repris en tout cas par beaucoup d'autres études. Et 24% des insecticides, donc ça c'est l'ONU qui à Genève, au congrès de Genève en mars 2018, a fourni ces informations. 24% des insecticides et 11% des pesticides pour à peine 3% des surfaces cultivées. C'est le coton. Les fameuses microfibres qu'on relargue, alors quand on fait une machine à laver de polyester, on relargue 700 000 microfibres, en tout ça fait 500 000 tonnes de microfibres, ça des petits qui sont dans les océans. Et en gros, c'est un secteur qui fait 2400 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 2100 milliards d'euros. Il y a 41 millions d'emplois, et c'est même, parce qu'il y a aussi un marché noir, c'est même une statistique basse selon certains. Et il faut savoir que 75% sont des femmes. Donc c'est un secteur qui aide aussi les femmes à travailler. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Alors, il y a des statistiques qui ont été reprises. La mode, et c'est repris par les médias largement, la mode est le deuxième secteur le plus polluant au monde, derrière l'industrie pétrochimique. Et ça a été repris récemment par le gouvernement français lorsqu'il a annoncé que la prochaine réunion du G7, qui sera à Biarritz en fin août 2019, consacrera une large réflexion à l'implication de la mode, justement, dans le développement durable. C'est François Rouquillot hein, qui sera chargé de rassembler les professionnels pour proposer un plan de route pour améliorer les choses. Et donc le gouvernement français a repris cette statistique, deuxième acteur le plus polluant au monde. Elle viendrait du film The True Cost qui a été réalisé en 2015. Ça a été repris par tout le monde, mais on ne sait pas d'où ça vient. Et une autre statistique peut-être plus sérieuse, donc la plus étayée, indique que l'agriculture, derrière l'industrie pétrolière, l'agriculture et le transport devancerait la mode, donc ça ne serait pas le deuxième. Mais peu importe, tout le monde s'accorde pour dire que c'est un secteur aujourd'hui extrêmement polluant. La demande mondiale est corrélée avec la croissance économique de fibres. Hein, donc là, vous avez une corrélation parfaite entre l'évolution du produit national brut et l'évolution de la demande de fibres. Mais, demande de fibres, c'est des kilos. Mais les vêtements sont de plus en plus légers. On allège beaucoup, notamment avec les fibres synthétiques. Et aussi avec une baisse de qualité, vous vous souvenez tous peut-être de la Lacoste de votre enfance. La Lacoste aujourd'hui, elle est un peu plus légère. C'est clair, donc on achète de plus en plus de quantité, il y a un peu moins de fibres par quantité. Et surtout, donc vous voyez que finalement les quantités de vêtements, elles ont été multipliées par deux entre 2000 et 2015. C'est un peu plus que le PNB et la courbe orange en bas. Hein. C'est plus, parce qu'effectivement, on allège. On n'emploie pas tellement plus de fibres, mais on fait plus de vêtements, plus allégés. Et surtout, ce qui est important, c'est que le nombre de fois où un vêtement a porté a baissé 36% entre 2000 et 2015, selon la fondation Hélène MacArthur, c'est-à-dire c'est la fast fashion. On achète des produits qui sont, il faut bien le dire, soit plus à la mode, soit de qualité inférieure, qui ne supportent beaucoup moins de pas bouger dans le temps. Donc, c'est un vrai problème. Et la consommation mondiale, notamment en Asie, devrait continuer de croître. Car la classe moyenne mondiale, elle va passer de 3 milliards à 5 milliards d'individus. Donc, d'après l'UNEC, donc c'est l'ONU, c'est une émanation de l'ONU, d'ici 2050, le secteur de la mode consommera 3 fois plus de ressources qu'au début des années 2000. Donc, des projections ont été réalisées, notamment par les Danois du Global Fashion Agenda avec le cabinet de conseil BTG. Des projections sur 2030 et on voit que la consommation d'eau, la consommation d'énergie et aussi au niveau du travail, le nombre de ça c'est une demande du Bureau international du travail, on calcule le nombre de personnes qui gagnent moins de 120% du SMIC local, du salaire minimum en cours localement, et donc ce nombre de personnes qui vient de faire va exploser aussi de 52%. Ceci étant dit, ces faits étant donnés, nous allons maintenant nous intéresser aux différentes étapes de la chaîne de valeur pour essayer de comprendre un peu quelles sont les implications de chaque étape dans cette production. Là, c'est un petit dessin qui c'était un peu comme c'était avant. Donc, on a des fibres hein, de l'agriculture, du coton par exemple, ou des moutons hein, pour faire de la laine. Ensuite, ben, on les récolte, on les file, hein, et ensuite, ou on les tisse, avec, en entrelaçant une chaîne et un trame, c'est ce que vous avez, ben, c'est un jean par exemple, c'est du tissage, ou on les tricote, ça va être un t-shirt, c'est de la maille, donc c'est entrelacé différemment. Ensuite, processing, on en oublie, on teint, on peut aussi apporter des tas de propriétés de plus en plus, hein, notamment l'imperméabilisation, etc. Les bandes réfléchissent, enfin les produits réfléchissants, l'imperméabilisation, plein de choses. On a aussi des collants qui font du bien, qui contiennent des choses qui font du bien, qui soignent les jambes, beaucoup de choses. Qui peuvent intéresser la diététique en termes de promesses non tenues. Ensuite, eh bien, on coupe ce vêtement. Et puis on fait du commerce, on le vend. Alors, on va commencer par les fibres. Donc les différents types de fibres textiles, vous les connaissez, on a des fibres d'origine animale, en gros c'est le coton, c'est la laine, on a le jute aussi, on a le lin, on en parlera, c'est le coton, c'est la laine, c'est la soie. Ensuite, on a des fibres, alors je vous annonce que l'amiante est une fibre d'origine minérale, naturelle, mais on ne fait pas de vêtements en amiante à ce jour. Ensuite, on a des fibres chimiques, donc les fibres artificielles dont on a parlé tout à l'heure, qui partent de la cellulose, et puis les fibres synthétiques qui partent du nafta, du pétrole. Alors, comment se répartissent aujourd'hui ces différentes fibres, avec quelles matières vos vêtements sont-ils fabriqués? Donc, vous le voyez, les choses ont beaucoup changé en 10 ans, entre 2008 et 2018. Déjà, les fibres naturelles, elles sont passées de 41% à 29%, au profit des fibres dites chimiques, qui sont passées de 59% à 71%. Le coton a notamment décru de façon significative de 10 points. Et puis vous voyez que la soie, c'est merveilleux, mais c'est rien dans la consommation de vêtements. C'est quasiment confidentiel. Et que la laine, c'est plus que 1% dans la consommation de vêtements. C'est des statistiques qui sont vraiment extrêmement sérieuses et tout à fait bien faites. Et donc, à côté de cela, on a les fibres. Alors, à partir du pétrole, on fait soit des filaments continus, c'est-à-dire qu'on va sauter l'étape filature, on ne va pas faire le fibre, on va directement dans un tuyau filer le dérivé chimique pour faire un fil qui va ensuite être tissé, donc il n'y a pas de filature. Par contre, on peut aussi faire des fibres que l'on va filer. Or, de plus en plus, on fait des filaments. On fait moins de fils et fils, ça stagne, et ce qui progresse, ce sont les filaments. Et par contre, au niveau cellulosique, là, on va faire plus facilement, on va faire plutôt des fibres. Et là, on a les fibres cellulosiques qui sont faibles, mais qui montrent quand même un jour.
Charlie.
Alors, pour reprendre le titre d'un livre d'Éric Orsena de 2006, Voyage au pays du coton. Alors, le coton, ben, on en a parlé, c'est Hérodote qui en a parlé, il disait les Indiens ont une sorte de plante qui produit, au lieu de fruits, de la laine plus belle et plus douce que celle des moutons. Donc, le coton, c'est une très très vieille découverte de l'homme. Et c'est une fibre naturelle, c'est plus écologique comme on l'a vu, hein, tout le coton, c'est 5 ml d'eau consommée. Et vous connaissez l'histoire, les médias ont fait le relais de la mer d'Aral dans les années 50 qui a été affichée à cause de la culture du coton en Ouzbékistan. Le Turkménistan. Et alors, la production mondiale, ben, le coton bio, c'est 1%. Peut-être ça remonte un petit peu, mais c'est vraiment pas beaucoup. 64% du coton mondial est OGM. J'ai rien contre le coton OGM, surtout si j'ai rien à dire là-dessus. C'est une discussion qu'on pourrait avoir, ça demanderait peut-être une heure de discussion avec des chimistes, avec des gens. Voilà, mais le coton OGM, il faut savoir que tous les t-shirts que vous avez fabriqués en Asie, il y a vraiment beaucoup de chances qu'ils soient faits en coton OGM. Le coton OGM, ça consomme quand même un peu moins de pesticides et moins d'eau. Donc ça, il faut le savoir. Donc c'est très largement utilisé aux États-Unis, au Brésil. Alors les grands producteurs, c'est Chine, Inde, États-Unis, Pakistan, Brésil, c'est très largement utilisé dans ces pays, notamment Brésil, Chine. En Chine, le coton est très fortement OGM. Alors, après le coton, on a la deuxième fibre, la fibre qui est la plus utilisée dans l'aliment, c'est plus de la moitié des fibres, c'est le polyester. Alors, le polyester, il a été inventé, c'est le polyéthylène téléréphthalate. Je ne suis pas chimiste, voilà. Il a été inventé en 1941 par deux Britanniques. C'est la condensation de deux composants issus du pétrole, un acide et un alcool. La production a été très importante en Europe. Vous vous souvenez de Rhône-Poulenc et ses grandes usines dans la région lyonnaise notamment. Et elle a été depuis très largement délocalisée, puisque maintenant, 80, y compris aussi au niveau des États-Unis, 80% de la production mondiale de polyester est effectuée aujourd'hui en Asie. Il y a des émissions toxiques que l'on traite dans les pays européens, pour les usines terrestres, parce qu'il en reste quelques-unes, que l'on traite naturellement totalement, qui sont le cobalt, le sel de manganèse, etc. Alors, il y a des alternatives plus durables qui sont mentionnées et qui, dans les calculs d'impact environnementaux, emportent des bonnes réussites. C'est le polyester recyclé. Il y a de la R&D qui est en train de se faire, etc. Je crois que contrairement au verre, on est obligé à chaque fois de remettre un peu de nouveau polyester. Ça ne fonctionne pas en circuit totalement fermé pour obtenir une bonne réussite. Les polaires sont largement, Decathlon vend des polaires en polyester recyclé, beaucoup de marques. Donc il faut 5 bouteilles plastiques pour un t-shirt 6XL, selon les statistiques. Et puis on avait ce fameux acide polyester, qui est un biopolymère qui vient du blé. Alors il y a quelques années on en parlait comme vraiment la fibre merveilleuse, mais faudrait-il que l'on plante du blé pour faire des vêtements? Question que... ou des carburants, c'est la même chose. Hein. Donc gardons le blé pour nourrir les hommes. Alors les fibres cellulosiques. Donc là, c'est 6% des fibres, mais c'est en forte croissance, notamment c'est beaucoup plus dans la mode féminine. Les hommes, vous portez essentiellement du coton et du polyester. Les femmes, vous portez beaucoup plus de fibres cellulosiques, viscose, lycra, etc. Non, le lycra, c'est une fibre synthétique, mais viscose, rayon, etc. Et on fait de plus en plus de recherches sur des... Alors, c'est pas tellement des recherches pour moins polluer, c'est plus des recherches qui sont au fond des choses très jolies, des effets très jolis. À partir de cette fibre. Elle a été inventée par des Français, on l'a appelé ça la soie artificielle, en 1884. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le brevet est britannique, en 1892. Donc on l'a inventée, mais on ne l'a pas profité probablement. Donc c'est un polymère naturel, c'est extrait de végétaux, de la cellulose. La plupart du temps c'est du bois, il y a le hêtre qui est très largement utilisé parce qu'il est très pratique pour faire cela. Évidemment il y a des critiques autour de la déforestation, mais autrement c'est assez neutre, on ne met pas de pesticides, etc. au niveau intrant en culture, mais les critiques c'est effectivement la déforestation et c'est surtout... tout ce qui est lavage, blanchiment et traitement qui sont extrêmement toxiques, donc sulfure, sinitreux, etc., et les rejets dans l'eau. Donc vous voyez, c'est dirty fashion, on a vu cela, c'est une rivière. En Inde, je crois, il y a la même chose en Indonésie. En Indonésie, on en parlait tout à l'heure, donc avec 400 usines qui sont à peu près au même endroit et qui ont totalement pollué la rivière. Alors, il y a du marketing. Le bambou n'est absolument pas écologique. Juste, c'est facile à faire pousser, et quand on essaie d'en mettre dans notre jardin, en général, ça colonise tout. Mais par contre, au niveau des traitements, ça nécessite des traitements aussi violents, aussi raides que que la viscose issue du lèvre, par exemple. Donc, le bambou n'est pas écologique, mais on a l'impression que c'est très écologique. Donc, il y a beaucoup de petites étiquettes vertes et de communication marketing pour nous informer qu'en portant du bambou, bah, par contre, c'est très doux. C'est une fibre qui est très agréable, très douce, qui se passe peu. Elle est anti-transpiration, donc elle a vraiment beaucoup de qualités, effectivement, au niveau du confort du consommateur. Mais elle n'est pas écologique. Il y a une fibre qui est beaucoup plus écologique, qui est issue de la cellulose de l'eucalyptus, c'est le lyocell. Parce que le lyocell, il est naturellement propre, donc on ne le blanchit pas, ou quasiment pas. On recycle le solvant, enfin c'est un traitement qui est relativement, qui est considéré comme propre, et en plus c'est biodégradable. Le seul problème, c'est que pour faire tout ça, on a besoin de beaucoup d'énergie. Hein, donc il y a toujours des choix. On a besoin effectivement cette énergie. Bon. Et enfin, notre fibre, le lin, c'est une fibre rare et haut de gamme, et elle est fabriquée en Europe et notamment en France. Bon, si vous êtes un peu normand, vous allez vous promener là-bas, les champs de lin, c'est absolument magnifique. C'est la seule fibre végétale européenne. Parce que c'est vraiment, hein, bon, il y en a dans les pays de l'Est aussi, un peu en Russie, etc. Mais il faut pour ça un climat océanique, une faible densité thermique et des sols gelés. Et donc ça, on a tout ça en Normandie, on a tout ça dans tout le nord de l'Europe, le long de la mer du Nord et de la Manche, où on a des cultures de lin. Et alors, c'est une fibre qu'on produit en France notamment, et qu'on envoie en Chine pour la tisser. Il n'y a quasiment plus de filateurs de lin en Europe. Pour la tisser, la tricoter, pour la filer, la tisser, la confectionner, et on reçoit nos vêtements en lin avec du lin européen. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits au niveau de la communauté européenne, etc., pour relancer la filière. Ça fonctionne relativement bien dans tout ce qui concerne l'ameublement. Il y a des marchés qui acceptent, c'est une fibre qui est plus chère. Il y a des marchés où le prix peut passer, les revêtements de canapé, les draps, et surtout tous ces coussins, etc. Il y a beaucoup de lin et ça fonctionne assez bien. Par contre, en habillement, jusqu'à présent, il faut bien reconnaître que c'est vraiment infinitésimal les filatures et tissages européens à partir de lin européen. Alors, il y a une étude, après avoir vu ces différentes étapes de la chaîne de valeur, il y a une étude qui a mesuré les impacts, qui est très intéressante, des différentes étapes de la fabrication. Donc, on a pris 7 étapes de la chaîne de valeur. Cette étude, elle a été faite par le Parcotis. C'est un centre de recherche qui émane de l'Institut fédéral de Lausanne et du CIRAD de Montréal. Donc, c'est suisse et canadien. Donc, ils ont fait cette étude qui est considérée par tout le monde comme une étude relativement scientifique. Bon, il est vrai qu'elle se sert comme base d'une base de données qui est alimentée par les entreprises. Hein. Hugo Boss, LVMH, MSIG alimentent, mais aussi maintenant H&M et d'autres, alimentent donc cette base de données. Mais il y a aussi des agences non gouvernementales peu soupçonnées d'avoir des intérêts trop forts dans des entreprises qui travaillent sur ce sujet. Donc les résultats rapidement, on le voit tout de suite, c'est 28%, donc il y a 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre pour le textile chaussure, donc 6-7 pour les vêtements, 1-3 pour les chaussures, donc ça fait 8. Et les deux parties de la chaîne de valeur qui impactent le plus cela, c'est tout ce qui est la préparation, on l'a vu, hein, les fils des fibres, donc tout ce qui est l'industrie cellulosique, chimique, etc., et le coton aussi. Et ensuite, c'est surtout tout ce qui est, on en a parlé, la teinture, l'ennoblissement, on appelle ça l'ennoblissement, hein, teinture, l'impression, et puis maintenant, de plus en plus, tous les traitements de microfibres, etc., que l'on rajoute pour apporter des qualités supérieures aux vêtements. On a parlé de l'imperméabilité, antiperspirante et transpiration, etc. Donc tout ça, ce sont des traitements chimiques qui sont faits par la suite. Donc, effectivement, faut-il être sale pour être beau et performant? La teinture, l'impression, c'est 20% de la pollution industrielle des eaux. On a vu tout à l'heure cela. Et pour la teinture d'un kilo de tissu, 100 à 150 litres d'eau. Et dans les régions en Chine où il y a beaucoup de tissage et d'ennoblissement, on a 70% des cours d'eau qui sont effectivement qui sont pollués. Voilà. Donc Greenpeace a relevé la présence de 5 métaux lourds dans la rivière, dans une rivière à côté de la capitale mondiale. Et c'est bien supérieur à tout ce qui est autorisé, y compris en Chine, bien sûr. Voilà, et on parle des rivières, mais il faut aussi parler des hommes, et qu'il y a énormément de maladies de peau, des maladies respiratoires dans ces entreprises. C'est totalement différent. On a plus de moins en moins d'ennoblissement en France, il en reste dans la région lyonnaise. Moi j'ai eu le plaisir de les visiter, c'est merveilleux, parce que tout est recyclé, c'est extrêmement propre. Tout est totalement recyclé en France ou en Europe, parce qu'on a des normes qui sont bien plus élevées, donc on ne connaît pas du tout, ça n'a rien à voir. Et les ennoblisseurs sont des gens absolument adorables, parce qu'en même temps chimiste, c'est un peu artiste pour faire mais sauf qu'ils ne peuvent plus vivre aujourd'hui, donc il ne reste plus que du haut de gamme, parce que le prix qui sort de l'usine de ce type ne passe plus sur le marché, tout simplement. Donc il y a eu l'ennoblissement, toute la région de Lyon, etc., de Roanne, a subi des fermetures d'usines en masse. Donc finalement, on aboutit à une répartition des capacités de production. Ben, vous voyez que les filatures, donc tout ce qui est pour filer, on en a parlé, dans toute la zone américaine, du nord comme du sud, il n'y a plus que 2% des capacités de moins de 10 ans. En Europe, on en a 5. L'Afrique n'a rien. Et tout est en Chine, en Inde, on a 55% de la filature, 19% en Inde, qui se situent des machines récentes qui se situent dans ces pays. Idem pour le tissage, on a un peu plus de tissage en Europe que de filature, mais on en a quand même très peu en comparaison de la situation asiatique. Alors il y a une petite différence à la maille circulaire. Il y a deux formes de mailles. Il y a la maille rectiligne. Alors la maille rectiligne, là, comme le nom l'indique, c'est un tissu que l'on va couper pour faire des t-shirts, etc. Donc le couper, ça implique de la confection, ça implique... Le tissu se fait mécaniquement, il n'y a pas besoin d'homme, hein. on peut faire des mètres avec 1000 personnes qui contrôlent toute une salle de machine avec un écran. Par contre, après, il faut couper et coudre, et couper et coudre, là, ça consomme du travail, donc ça, on ne peut plus faire, on le fait de moins en moins en Europe. Par contre, ce qu'on appelle maille circulaire, c'est la maille tubulaire pour les chaussettes, par exemple, on fait directement un tube, et il y a juste, ça, c'est complètement mécanisé, on peut le faire en Europe. Il y a des choses. Le slip français, ben voilà, des slips aussi. Il y a des choses qui peuvent encore se faire en Europe. C'est de la maille. Et on a encore des chaussettes Bleu Forêt. Je ne sais pas si vous avez entendu. Bleu Forêt fabrique ses chaussettes en Europe, mais parce que c'est mécanisé. Donc ça, c'est de la maille circulaire. La maille rectiligne, c'est très difficile parce qu'à chaque fois, c'est le prix de la confection. Et puis, le 24, pour terminer cette partie, le 24 avril 2013, eh bien, on a l'effondrement du Rana Plaza à Dakar, et on a su, donc, avec 1138 morts et près de 2500 blessés. Je crois que l'immeuble avait déjà la veille menacé de s'effondrer, enfin, il y avait des fissures, etc. Des gens, d'ailleurs, n'étaient pas retournés travailler, mais les patrons de ces entreprises ont demandé à leurs ouvriers, il n'y a pas de danger. Venez travailler, et on a obtenu, et ça a été une émotion populaire internationale, surtout qu'on a retrouvé effectivement des étiquettes de vêtements, et on a vu que beaucoup de grandes marques internationales que l'on porte, nous, en tant que consommateurs occidentaux, utilisaient des usines du Rana Plaza pour fabriquer les vêtements que l'on porte. Donc on a parlé du sang dans les fringues, hein, ça a été repris par les médias. Les choses évoluent. Donc, d'une part, on a mis en lumière le côté un peu caché de la face sombre de la fast fashion, qui nous paraissait merveilleux. Là, on achète des vêtements qui sont pas chers, qui changent tout le temps, etc. C'est formidable. Là, on a vu comment ils étaient fabriqués et pourquoi ils étaient pas chers. Donc, il y a eu quand même des choses qui ont évolué. Un certain nombre de grandes marques, Auchan avait d'ailleurs été accusé de ne pas participer au départ à cette décision. Un certain nombre de grandes marques ont effectivement payé, se sont impliquées pour payer des remises à niveau et aussi des indemnités auprès des familles, hein, de victimes. Et il y a eu des décisions qui ont été faites, donc avec des contrôles d'usines sous l'égide de l'Organisation internationale du travail. Les choses ont évolué. Franchement, les choses ont évolué, mais s'il faut un drame comme cela pour faire évoluer les choses, ça nous pose quand même questions. Mais, et en tout cas, elles ont évolué sur le plan de la sécurité des bâtiments, etc. Elles ont peu évolué. Bon, il y a le salaire minimum. Au Bangladesh, il y a eu des grèves. Le salaire minimum a légèrement augmenté, mais on ne peut pas dire que les choses avancent à grands pas sur le plan du travail, des conditions de travail, et aussi du traitement des femmes, hein, entre les discriminations entre les femmes, sachant que beaucoup de femmes sont employées dans les tâches, les hommes sont souvent contrôlent les machines, etc., les machines à coudre dans des immenses salles, et ce sont souvent des femmes qui y travaillent. Voilà, donc nous avons un système de la mode. On va voir maintenant la manière dont les choses ont évolué en Europe, aux États-Unis, et puis on va se focaliser un peu sur des statistiques françaises, mais c'est partout pareil, hein, ça n'a pas de. Donc le système est à bout de souffle, pourquoi ? Parce que la consommation, elle ne suit plus. Elle a suivi énormément pendant beaucoup de temps. Mais vous avez dû entendre dire que il y a des grandes enseignes de distribution d'habillements bien connues qui ferment des magasins. Bon, alors il y a Internet qui explique un peu les choses, mais il n'y a pas que ça, qui ferment des magasins, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, revenons. Made in Moon, c'était un livre qui avait été écrit, je crois que c'était dans les années 90, par Suzanne Berger, je crois, Berger ou Berger. Elle parle très bien le français, mais je crois qu'elle est. Elle est américaine, mais en tout cas elle est franco-américaine. Alors, jusqu'en 1995, il y avait des quotas d'importation. C'est-à-dire que pour chaque produit, on les payait. C'est-à-dire qu'on payait un quota pour avoir le droit d'importer. Et le quota, on disait, l'Europe avait par pays, on avait maximum sur Chine, maximum tant de quotas sur tel et tel pays. Et ça s'appelait les accords multifiles, AMF. Et puis, on a décidé, en 1995, à l'intérieur de l'Organisation mondiale du commerce, de supprimer ces quotas qui paraissaient un peu archaïques au nom de la libéralisation des échanges. Ça allait très bien, finalement, parce que la Chine n'était pas dans l'OMC. Donc, le gros pays producteur dangereux, entre guillemets, pour l'Europe et les États-Unis, il n'était pas dans l'OMC. Sauf que... En 2001, la Chine est entrée dans l'OMC. Donc, automatiquement, elle a été impactée par la fin des quotas textiles. Et finalement, il y a eu une levée effective au 1er janvier 2005. Il n'y avait plus de quotas textiles pour aucun pays et plus pour la Chine. À l'époque, j'étais un peu dans le circuit et on nous faisait travailler, le ministère de l'économie français nous faisait faire des projections d'importation en disant que ça va être quand même dur. Et nous, on nous taxait un peu d'exagérer un peu, mais on n'a pas du tout exagéré autant que les choses se sont faites, parce que tout le monde a oublié. On a pensé que ça allait se faire progressivement, donc voilà, on faisait des belles courbes avec une accélération, mais quand même progressive. Et en fait, les grandes marques internationales, les grands distributeurs, quand ils ont vu que la Chine rentrait dans l'OMC, ils ont projeté 2005. Donc, ils ont continué de faire fabriquer. Je vais citer Decathlon, mais c'est pas. Ils ont tous fait cela. Et toutes les grandes marques de sport aussi, notamment. Donc, c'était je fais des t-shirts. On en faisait encore à 3 à l'époque, de moins en moins, mais on en faisait en France encore, t-shirts Decathlon, à 3. Et puis, on en faisait, ça dépendait des catégories étudiantes. Et puis, le même t-shirt vendu en gros volume, on le faisait à la fois en Tunisie, en Turquie. Et puis on faisait des péréquations en fonction de la demande, etc. C'est des produits assez basiques qu'on réassortit en permanence. En 2001, la Chine devenait intéressante puisqu'il y avait plus de quotas, donc on allait avoir une baisse des prix et puis une montée des quantités possibles. Donc tout le monde a commencé dès 2001 en payant les quotas, mais à travailler avec les Chinois parce que c'est toujours long. En général, avec les Chinois à l'époque, c'était long au départ, mais ensuite, une fois que c'est fait, la qualité, elle est comme on l'a demandé, elle est standard. Il faut bien se comprendre au niveau des standards. Donc tout le monde a fait ça. Donc en 2005, paf, on a appuyé sur le bouton. Et ceux qui en ont pâti, c'est évidemment les Européens, les Portugais aussi, l'Italien un peu, la France, les dernières mailles de France, par exemple, mais c'est aussi énormément le Maghreb, donc Tunisie, Maroc. Ils ont commencé à partir de 2001, leur entreprise qui employait beaucoup de gens a commencé à décliner fortement. Alors ça a été tellement été fort, ça a tellement, en 2005, pardon, ça a tellement étonné tout le monde que, bon, même les Chinois, ils, je pense qu'ils étaient étonnés eux-mêmes de la manière dont ça a augmenté. Donc l'Europe a demandé à renégocier sur certains produits vraiment sensibles. On a renégocié des quotas qui se sont progressivement libéralisés au 1er janvier 2008. Voilà, à partir du 1er janvier 2008, il n'y a plus de quotas, sauf si on peut prouver, et ça existe, je crois que ça, c'est toujours possible, qu'il y a dumping, c'est-à-dire que le prix d'un produit n'est pas à l'intérieur de l'OMC, le prix d'un produit ne représente pas la réalité de son coût de fabrication. Mais pour le reste, il n'y a plus du tout de quotas. Ce qui fait qu'il y a 30 ans, si on regarde les importations d'aliments de la France, eh bien, on importait d'Italie et ensuite on importait du Maroc, de Tunisie, de Portugal. Et la Chine, les importations d'Italie étaient 4 fois supérieures à celles de la Chine. Et la Chine était vraiment classée, en tout cas derrière, pour retenir, parce que si on passe en Europe, on n'aura pas les intra-européens, mais la Chine était bien derrière le Maroc et la Tunisie. Voilà, et en 2008, donc ça c'est les importations d'aliments de l'Union, la Chine fait et Hong Kong font 20%, le Bangladesh 12%, la Turquie là, et vous voyez que le Maroc et la Tunisie représentent beaucoup moins du total des importations. Donc les pays que l'on appelle Euromed, donc le Maghreb, a effectivement beaucoup, beaucoup souffert. Durant cette période de la concurrence de la Chine. Mais depuis, ça vous le savez, les salaires chinois augmentent, la Chine cherche à faire davantage de haut de gamme et délocalise elle-même ses fabrications dans des pays moins chers, la Birmanie, l'Indonésie, le Bangladesh, et voire le Kenya et des pays africains maintenant. Ce qui fait que le total à vie, il plafonne maintenant, 63%. Donc 63% des importations européennes en valeur en milliards d'euros sont d'origine asiatique. Et vous voyez que c'est les autres pays d'Asie, donc c'est l'orange pâle qui fait 36, qui en 2014 a croisé la Chine, qui elle a tendance à descendre. Et les pays euro-méditerranéens se maintiennent relativement bien grâce à la Turquie. C'est quand même la Turquie qui, jusqu'à présent, elle a pu tirer son épingle du jeu parce qu'elle a du coton. Donc c'est très intéressant. Le Maghreb, ils n'ont pas de coton. Donc il faut importer la matière. Donc la Turquie ayant du coton, c'est très intéressant pour faire du court terme, de s'adresser à la Turquie. Alors parlons maintenant de la consommation. Eh bien, vous savez qu'en 1960, on dépensait 32% du budget pour l'alimentation, les poissons et le tabac. Aujourd'hui, on en dépense plus que 17%, et la vie en chaussures faisait 9% des coefficients budgétaires. Le coefficient a cessé de baisser, et il continue de baisser pour représenter maintenant 3,9%. Alors, ça ne veut pas dire du tout que la consommation, on est dans les premières rues, hein, tout a beaucoup cru, mais il y a plein d'autres biens qui ont cru davantage que le textile à Liban. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les prix ont énormément baissé. Donc les quantités ont augmenté, mais la consommation en valeur, elle, a baissé, au contraire, depuis un certain nombre d'années. Vous la voyez là. Donc là, les quantités se sont envolées. Hein, entre 2000, on va dire, 2000 et 2014, on a un envol des quantités. Par contre, les valeurs ont stagné. Et depuis 2017 et 2018, et là, c'est là que les choses ne vont plus très bien, puisque les valeurs baissent de façon significative, hein, moins de 9% de chiffre d'affaires l'an dernier, moins de 4% cette année, moins de 5% cette année sur les 4 premiers mois, et que les quantités progressent. Elles ont stagné l'année dernière, et là, en ce moment, elles ont tendance à baisser aussi. Parce que aussi, le consommateur change, et peut-être qu'il achète un peu moins, il achète moins, mais mieux. Peut-être. Alors, on a une déconsommation générale, donc c'était une enquête qu'avait fait l'IFM l'année dernière. 44% des Français disent « j'ai acheté moins de vêtements en 2018 qu'en 2017 ». Et ce qui est nouveau, c'est que même les jeunes font cette affirmation. Auparavant, on avait une grande différence entre les personnes plus âgées qui achètent moins de vêtements et les jeunes qui continuent d'en acheter au moins autant. C'est plus le cas aujourd'hui.
Ça, c'est ce que les gens disent.
Oui, c'est du déclaratif, on est d'accord. On est d'accord. Mais les quantités que l'on suit par ailleurs, les quantités confirment cela. Parce que depuis là 2 ans, on n'a plus de hausse des quantités. Et on a baisse les valeurs. Qu'on a la comptabilité nationale, il y a les statistiques en valeur, elles sont bien connues. Elles sont bien connues. Il y a les chiffres d'affaires des enseignes, il y a la comptabilité nationale.
Voilà. Oui, mais c'est des statistiques en valeur en général. L'intérêt de cette statistique-là, c'est qu'elle distinguerait des classes d'âge.
Oui.
Mais est-ce que les statistiques en valeur générale qui sont bien connues distinguent ces classes d'âge?
Non.
D'accord.
Non, on est obligé de passer par des enquêtes. On n'a pas. Bien sûr. La comptabilité nationale ne représente pas par âge. Même pas par sexe. Alors, bon, c'est intéressant, mais là, je suis d'accord avec toi, il faut le prendre comme du déclaratif. Quand on nous, des fois, on nous pose des questions, moi, des fois, je me dis, mais pourquoi j'ai répondu ça? Parce que je suis en train de faire le contraire. Bon. Faut bien se le dire. Mais les déclaratifs indiquent aussi des intentions, quelque part. On a en tête. Voilà. Même si on ne le sait pas, on l'a en tête. Donc, on essaie, c'est une enquête qu'on a fait que l'IFM a fait en novembre 2018. On était en plein dans les gilets jaunes, la conscience des Français, le sentiment des Français que vraiment il fallait se serrer la ceinture quelque part. Donc, 60% nous disent je suis contrainte, j'aimerais bien acheter plus de vêtements, mais je ne peux pas. Et les dépenses contraintes, on les connaît, on les a vues tout à l'heure, c'est le logement, notamment dans les grandes villes. Comment on fait pour se loger? Les jeunes étudiants savent quelque chose. Comment on fait pour se loger? Et c'est aussi pour les gens des campagnes, l'automobile, le pétrole, etc. On est bien d'accord. Donc le vêtement, ce n'est pas la priorité. Et dans les priorités, on voit qu'il y a les vacances et les enfants aussi, qui sont importantes. Et il y en a 40%, ceux-là aussi sont intéressants. Ce n'est pas du tout ça. Ils ont les moyens et on a même des catégories supérieures de cadres qui répondent à cela. Ils ont les placards pleins, ils se posent des questions. Ils ont envie de faire autre chose. Voilà, dès d'encombrer son stock, on a d'autres préférences. À quoi bon? Et il y a même qui dit, de toute façon, ce qu'on voit dans les magasins ne me tente guère, donc j'ai décidé de ne plus acheter. Bon, il faut voir aussi qu'à la place, et ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à soi, à l'époque des selfies, etc., c'est qu'on a deux consommations qui avaient fortement augmenté au cours des 10 dernières années, c'est tout ce qui est beauté, soins de soi, sport aussi, inscription à des clubs de sport, et tout ça, ça c'est bien pour soi, c'est bien pour l'image, sa santé, et c'est l'image qu'on souhaite refléter. Il y a tous les produits de beauté, toute la beauté, mais qui est aussi en train de stagner à l'heure actuelle, mais il y a eu effectivement une envolée de consommation, donc c'est aussi pour soi. Ça s'est fait au détriment du vêtement, quelque part. Et puis, je reviens de Corse, là, je pense que les tatouages aussi, c'est une façon de ça se fait aussi au détriment des vêtements. Quand on voit le nombre de Français tatoués sur une Français ou autre, tatoués sur une plage, de tous âges, on se dit que c'est notre façon, finalement, d'affirmer son individualité, quelque part. Alors, là, juste pour savoir que... il y a 30 ans, les petits commerces indépendants, les boutiques multimarques qui vendent plusieurs marques que vous connaissez dans les centres-villes, etc., faisaient plus de 50% de la consommation d'habillement en France. Aujourd'hui, ils font 8%. Ça a été une fermeture, une bénédina, et ils ont été remplacés par des chaînes. Donc les chaînes du centre-ville font 42%, il faut ajouter les chaînes de périphérie, chaînes de périphérie, c'est Kiabi, c'est Primark, c'est La Halle, etc. Donc on a plus de 50% qui passent par des chaînes spécialisées en habillement. Ce sont des spécialistes de l'habillement. Donc vous voyez grands magasins et magasins. Magasins populaires, c'est Monoprix. Hein. Qui se maintiennent après avoir énormément dégringolé. Les magasins de sport sont plutôt en croissance. Et les hypermarchés, c'est 17% il y a quelques temps. Mais ils souffrent comme on les a vu souffrir aussi dans l'alimentation. Et ils souffrent d'autant plus que quand on commande quelque chose sur le drive, on fait une commande alimentaire et produits d'entretien, on commande pas de textile, d'ailleurs il y en a qui ne proposent même pas, il y en a qui le font maintenant, et on ne va plus dans le magasin. Donc on n'est plus tenté, on ne va plus dans les. Il n'y a plus personne. Donc, ils se réduisent comme peau de chagrin, notamment dans les grands hypermarchés. Dans ces chaînes qui font plus de 50% de la consommation, on a toutes les enseignes dites de fast fashion, donc les Zara, H&M, mais aussi des enseignes françaises, qui vivent sur un renouvellement permanent des produits. Il y a deux collections par saison, c'est terminé. On peut les fabriquer en Asie 12 mois avant. On peut les fabriquer longtemps en avance et on séquence tout, on en fait fabriquer tout le temps et on les amène en magasin. Et pour cela, on s'inspire et on peut le faire très vite et on peut même les faire venir en avion. plutôt qu'en cargo, si on veut vraiment les avoir en magasin très vite, on va s'inspirer des défilés, s'inspirer coquet, hein, pour très amuser, des défilés des grandes marques de luxe, mais qu'on va savoir remarquablement bien, qu'ils vont savoir remarquablement, ces Zara par exemple, adaptés à la mode de l'armée. Voilà, donc c'est un système qui a jusqu'à présent inondé le marché, mais qui aujourd'hui, là encore, est en phase un peu de réflexion aussi. Donc vous voyez que les reconduits à l'identique, ce qu'on appelle le réassort, enfin, en mode, c'est 14% seulement de la part de produits qui sont créés chaque année. Alors, l'évolution des espaces commerciaux en France, il faut que j'accélère un peu. L'idée, c'est de vous montrer que en 40 ans, les surfaces textiles ayant des... ou spécialistes textiles ou ayant un rayon habillement ont augmenté de 199% et de 7% encore en 10 ans et qu'elles ont essentiellement augmenté dans les chaînes d'habillement mais aussi les super et les hypermarchés. Ils ont ouvert, donc vous voyez que même sur la période 2017-2017, on a continué de faire 36% de plus de surface dans les hypermarchés. On voit les difficultés aujourd'hui des grandes enseignes Carrefour, pour ne pas le nommer, et d'autres, avec un parc de magasins qui, en plus à l'heure de l'Internet, est surévalué, surdéveloppé par rapport au potentiel de consommation des consommateurs. Et les promoteurs de centres, les mairies, les communes ont avancé, bon, on a des ronds-points, hein, vous savez, ont avancé et effectivement là-dedans, parce que c'était. On a créé des centres commerciaux sans se demander si la commune, une commune pas très loin, chacun calculait la zone de salandise, sauf qu'il y avait une zone de salandise qui était la même pour deux, et on en faisait deux. Et il y a eu vraiment, on s'est emballé, tant que la consommation a relativement suivi, ça a été le cas dans la mode, grâce à ces enseignes dont j'ai parlé tout à l'heure, ces Zara, H&M, qui ont réussi à créer des désirs, le consommateur a mordu à l'hameçon et ça a fonctionné. Depuis 3-4 ans, ça ne fonctionne plus. C'est ça le problème. Et on a une déconnexion entre l'évolution des surfaces commerciales. Vous voyez, sur 40 ans, les surfaces de commerce ont augmenté 199%, on l'a vu, 117% sur les spécialistes, et la consommation habillement à prix constant, c'est-à-dire déflatée de l'inflation, a augmenté de 9%. Cherchez les voir. 117% de plus de surface spécialisée en habillement pour une consommation qui est grande de 9. Pour terminer sur cette partie, avant de voir les évolutions, j'espère que je peux encore vous parler un peu. Vous avez ici la décomposition du prix d'un t-shirt. Donc vous voyez, il faut se dire que dans un t-shirt, déjà, le commerce, bah forcément, il y a la marge. Les centres commerciaux, les centres-villes, les loyers sont extrêmement chers. Hein. Vous avez entendu parler des batailles pour avoir un magasin. Alors là, je parle à Paris, sur les Champs-Élysées. Le prix des loyers et le prix des pas de porte, c'est faramineux. Il faut être une grande marque internationale pour pouvoir se payer ça. Donc, dans le prix d'un t-shirt, bah, vous avez déjà 17 euros qui vont partir. Pour un t-shirt de 29 euros, vous avez 59% qui va à la distribution, effectivement. Le bénéfice, les matières premières, c'est 12%. Donc vous avez une décomposition qui est assez bonne. Hein. Et le salaire du travailleur, bah, lui, il fait 0,6%, donc 0,18 euros. Donc dans le t-shirt que vous portez, vous avez, je ne vais pas dire la sueur parce que ça fait un peu démago, mais vous avez... vous avez un travailleur qui est compensé 0,18 ans. Une autre décomposition qui est intéressante, c'est ce qu'on avait fait à l'ISM, un jean basique homme, un tissu asiatique, donc fabriqué en Asie, fabriqué en Chine, il coûte 7,9 basique, hein, c'est-à-dire il va coûter 7,9 euros, 7 euros au Vietnam, 6,3 au Bangladesh. Sachant que le prix du coton est le même. Hein, le prix du coton, du tissage, on a les mêmes. C'est le coût du travail qui est la seule différence. Parce que ce sont des machines, il y a des machines asiatiques ou des machines japonaises ou des machines allemandes. Tout le monde les paye le même prix. Une machine de tissage ou de filature, on la paye le même prix. Et la matière première aussi. Alors il y a des discussions aussi, la Chine paye peu, comme vous savez, sur l'électricité, sur l'énergie. C'est en train de se corriger. Et si ce même t-shirt on l'a fait avec du tissu asiatique en France, il va nous venir à 17 euros. Donc 10 euros de plus, plus 10 euros de plus, juste à cause de la complexité. Maintenant, un jean basique homme en tissu Euromed, c'est-à-dire un tissu fabriqué dans la zone euro, y compris Maroc, Tunisie et Turquie, hein, donc plus proche de nous, on va dire, il reviendra à 20 euros, parce que le tissu sera plus cher aussi, forcément. Donc on a des écarts entre le Bangladesh, 6 euros, 20 euros. Donc sachant que quand on achète des choses pas chères, bah, faut se poser aussi la question.
Et là, le recyclage n'est pas pris en compte. Le coût du recyclage.
Non.
C'est le coût.
On a les fournitures, le transport. Je ne vais pas m'attarder dessus. C'était fait avec une enquête assez approfondie à laquelle j'avais participé. Voilà. Alors, avant de donner le débat, je n'ai pas encore fini. Qui fait quoi ? Il y a des initiatives institutionnelles qui sont faites. Il y a des initiatives aussi des producteurs eux-mêmes qui savent que ça ne va pas pouvoir continuer comme ça. Parce que... Et il y a aussi des demandes des consommateurs qu'on verra à la fin. Donc, qui fait quoi pour changer ? Bah, soit on change la façon de produire, soit on change la façon de consommer. Donc la façon de consommer, ça viendra des consommateurs qui commencent déjà à dire on n'en peut plus, il faut changer. La façon de produire, ben, il y a les organisations à but non lucratif, donc toutes ces ONG qui travaillent beaucoup sur ces sujets, qui produisent des études. Bon, il faut savoir qu'elles sont beaucoup sont financées, la Fondation Hélène Marc-Arthur, elle est financée par des grands noms de la mode ou des grandes marques internationales. Ce sont des fondations. Mais elles sont libres, je pense, dans leur manière, parce qu'elles n'accusent pas une enseigne particulière. Elles travaillent sur l'ensemble de la filière. Et puis, on a effectivement des compagnies, des marques, on va le voir, qui se posent des questions et qui essayent d'évoluer, qui essayent de corriger des choses. Et ça évolue, effectivement, petit à petit, peut-être. Alors, sur le plan institutionnel, sur le plan... On a une multiplication des labels, qui fait que... C'est un petit exemple. Ce qui fait que les consommateurs sont plus éclairés, la question c'est encore une normalisation des normes. Alors, trois labels, pour vous, parce qu'ils sont très représentés, qui signifient quelque chose. Le label Ecotech, c'est un label qui a été créé par des Allemands, par l'industrie allemande, des fonds de recherche allemands. Il est tracé sûr. Il y a une liste de produits toxiques, un vêtement qui est. Des chaussures qui sont qualifiées. Non, c'est des vêtements. Sont qualifiées d'Ecotex. Soit ne contient pas du tout aucun de ces produits textiles, soit peut en contenir, mais à des, et c'est indiqué, hein, mais à des substances, à des pourcentages qui sont bien inférieurs à des chiffres déjà très faibles qui sont voulus, qui ont été affirmés par le standard Ecotex. Et ensuite, sur le plan du coton bio, on a les GOTS, Global Organic Textile Standard, qui a été créé en 2006 à l'initiative de plusieurs organisations. Il n'y a pas les Français, il y a beaucoup d'anglo-saxons et japonais dans l'ensemble. Et donc là, soit la fibre, et là c'est très sérieux aussi, c'est considéré par les ONG, etc., quelque chose de très sérieux, c'est difficile de l'obtenir. Donc soit la fibre, soit le produit contient 95% de matière bio, soit 70%, mais là c'est pas là, soit au moins 70%, mais là c'est bien indiqué, c'est bien précis, c'est considéré comme un label assez sûr par les observateurs extérieurs, je dirais. Et puis alors là, une chose qui est un peu différente, c'est le fameux Better Cotton Initiative, créé en 2005. Donc là, c'est pas le coton bio, justement, c'est des normes dans la culture du coton. Le problème, c'est que, ça a été galvaudé par la suite. Au début, ça marchait bien, effectivement, parce qu'on n'est pas obligé d'être bio à 100%, parce que c'est compliqué, et puis c'est aussi utiliser des terres pour faire du coton, etc., parce qu'il y a un environnement qui sont vraiment faibles. Donc au départ, c'était une très bonne initiative. Mais comme on labellisait des entreprises et pas des produits, ben les marques, certaines ont vite compris qu'elles pouvaient avoir du better cotton, etc., avec des produits qui n'avaient rien à voir, du moment qu'ils sortaient de l'usine. Alors il y a eu des correctifs, etc. Alors notre amie Élise Lucet, a fait une émission là-dessus, et elle les a épinglées parce qu'effectivement, des chimistes ont trouvé des OGM, des tas. Bon, mais enfin, on n'a pas l'impression d'acheter des OGM, c'est ça le problème, c'est que, pourquoi pas, mais on a l'impression d'acheter quelque chose qui n'est pas OGM précisément, et surtout, ce qui est plus grave encore, c'est des substances toxiques dans certains des produits qui étaient labellisés.
C'est pourquoi la France n'a pas joint au deuxième label.
Très franchement, c'est très anglo-saxon, hein, l'intérêt pour la nature, l'écologie, etc. Nous, les Français, les modes français, pendant longtemps, ils se sont foutus, entre guillemets. C'était pas leur problème. Hein. On peut dire. Nous, on est quand même plus dans les paillettes. Puis on a la plus grande industrie de la mode du monde, vous savez. On a le luxe, vraiment. On est très... c'est pas tout à fait pareil que... les Suédois sont très avancés, mais ils ont créé H&M et Ikea, hein, qui ne sont pas non plus... Enfin, on parlera d'H&M. Je me dépêche. Alors, il y a des analyses ACV. Ça a été fait pour tous les produits, c'est pas seulement le textile. Hein. Ça a été publié par l'ADEME en septembre 2018. On prend les différentes étapes, mais là, c'est en économie dite circulaire, c'est-à-dire qu'on prend l'utilisation du produit fini par le consommateur, donc les lavages, etc. Et on prend aussi la fin de vie des produits ou les chutes issues de la production. Donc, pour les vêtements, on en déduit que le choix de la matière textile influence énormément les résultats. Bon, mais il y a un corrigif qui est fait par la dame elle-même, c'est que il y a des enjeux qui n'ont pas été considérés par l'étude. C'est ce qui rend cette étude très critiquable et critiquée. Tout ce qui est aquatique, toxicité humaine, bien sûr, occupation des sols, etc., n'est pas pris en compte dans l'étude. Donc pour le textile, c'est gênant. C'est franchement gênant. Donc le coton recyclé, le polyester recyclé, ils obtiennent effectivement les meilleurs résultats sur les différents indicateurs. Alors, je ne vais pas commenter ça, mais vous voyez, vous avez des différents produits et vous avez les différentes phases, matières premières, etc., calculées en équivalent en CO2. Bon, évidemment, un manteau, c'est beaucoup plus lourd, donc c'est normal qu'il soit beaucoup plus haut. Mais c'est beaucoup plus lourd qu'un petit t-shirt. Mais il y a quand même des différences entre le coton, le polyester, etc., et le recyclage. La robe en polyester, la robe en coton, par contre, vous voyez, c'est quasiment pareil. La robe en viscose est un peu plus faible. Tout ça, c'est étudié par les professionnels, les entreprises, les distributeurs tiennent compte de ça. Ils essaient de réfléchir comment on peut améliorer telle et telle chose. Jeter et recycler, comme vous le savez, on a des bacs maintenant qui sont opérationnels dans les villes, dans les hypermarchés, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? On collecte et ensuite il y en a une partie qui est triée et qui va être. Il y en a très peu qui sont vraiment éliminés, les autres ils vont être valorisés énergétiquement, donc on va les brûler, où on va faire des combustibles solides que l'on va récupérer. Donc pour faire de la valorisation énergétique, et le reste va être soit recyclé, alors il y a des chiffons des usages, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de faire des matières premières secondaires recyclées à partir de ces produits, sachant que, pour répondre à ta question, la mode féminine, il y a des boutons, ceci, qui contient 4 fibres différentes avec des choses qui brillent, des choses qui brillent, c'est une catastrophe, alors qu'un t-shirt en coton tout simple, c'est beaucoup plus facile à recycler. Et puis on en envoie aussi quand même beaucoup, on en réutilise beaucoup, soit on les vend en seconde main, soit on les donne à des associations, ça fait les vestiaires, des malus, etc., qui peuvent même les revendre à des prix très 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 faibles, soit aussi on les exporte en Afrique, et ça c'est un problème, on verra. Alors, on a créé un organisme en France, on a créé la profession avec, au départ, toutes ces grandes marques, a créé en décembre 2006, il y a eu la loi sur la responsabilité élargie de production, c'est-à-dire toutes les personnes qui mettent sur le marché un produit textile sont chargées, donc ce sont les distributeurs, sont chargés de payer une taxe. Donc, par exemple, pour une grosse pièce, on paye 6 centimes, pour un manteau, on va payer 6 centimes. qui va être qui est dans le prix d'achat chez le distributeur et qui sera reversé à cet organisme éco-TFC qui finance des projets de recherche et qui finance beaucoup de centres de tri dans l'économie sociale et solidaire. Vous savez qu'on emploie beaucoup de chômeurs ou de gens qui ont des difficultés à se remettre dans l'emploi dans ces centres de tri. Effectivement, ça fait du travail à des gens. Alors, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que 58%, c'est qu'il n'y en a que 41% finalement qui sont vraiment recyclés. Donc déjà, sur deux, on recycle 36%. On a fait beaucoup de progrès en quelques années. C'était moins de 25% il y a 3-4 ans. On recycle en France 36% des vêtements qui sont vendus quelque part, qui sont jetés. Donc on recycle 36%, le reste, soit on les garde dans nos placards qui sont jetés ou plus portés, soit on les garde dans nos placards, soit on les met, il y a 6 à 7% qui sont mis dans les poubelles classiques, soit on les utilise chez nous pour faire de la peinture ou autre. Voilà, et ce qu'il faut retenir, c'est que 56% sont réutilisés. Alors, pour terminer, donc, sur cette partie, donc, Barberis, vous avez entendu parler du scandale, et c'est le scandale puisqu'ils ont brûlé, pour ne pas les mettre sur un marché parallèle, ils ont brûlé des vêtements Barberis qui font rêver le monde entier, une marque de luxe qui se permet de brûler des vêtements, ils se sont excusés, donc, ça ne pouvait pas être autre chose. Merci. Je pense pas qu'ils ont. Ça a quand même contribué à un peu déverdir leur image. La question, c'est qu'on met 5 millions de vêtements sur le marché et on en jette 4 en même temps. C'est énorme. Le marché de la fripe dans les pays en voie de développement, ça fonctionne pas. Ils sont tout prêts à accueillir nos déchets, les déchets de la passage. Il y a des classes moyennes qui aspirent juste à acheter des vêtements neufs comme nous. Il y a un train, il commence à se développer dans ces pays, notamment par des gens qui reviennent dans leur pays pour faire quelque chose, commencent à se développer des industries qui fabriquent en Afrique des produits pour les Africains. Qui ne travaillent pas avec les déchets, surtout que vous savez qu'il y a vraiment des entreprises dont c'est vraiment le métier de racheter tous ces stocks et de les revendre en Afrique et de se faire des belles marges à l'occasion. Alors, il faut dire que le recyclage, c'est une rentabilité, c'est ça aussi le problème. C'est que si le prix du pétrole baisse, si le prix du coton baisse, c'est plus intéressant de recycler, c'est très peu rentable. Donc il y a un vrai problème. Donc les gens investissent. C'est difficile d'investir parce qu'on n'a pas. C'est tellement dépendant du prix de la matière première neuve. Comme il n'y a pas de règles aujourd'hui, c'est très compliqué. Alors effectivement, un organisme comme l'éco-TFC finance d'une économie sociale et solidaire, etc., ou des progrès des recherches en R&D, etc., qui ne sont pas rentables, que personne ne ferait. Donc on fait partie, effectivement, cette possibilité de financement. Alors, l'indice IG, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai cherché, tout le monde dit HIG, c'est AI. Ça a été lancé donc en 2012, c'est par des grands fabricants mondiaux de chaussures qui avaient pris conscience en 2012 des problèmes, qui étaient déjà épinglés pas mal par les médias et surtout par les ONG. Ils ont voulu, ils ont vraiment, et je pense que c'était une vraie volonté, mettre en place pour les entreprises un outil qui leur permette de s'améliorer, de tout contrôler, ce qui était environnemental, ce n'était pas social au départ, de tout contrôler. Donc c'est un outil qui est extrêmement complexe, mais très bien fait. Donc on calcule, on rentre exactement, il y a des tableurs, etc., on rentre toute sa consommation de tel et tel produit, la manière dont on distribue, etc., tout est très précis, c'est vraiment des gros boucles. Et c'est utilisé en interne par les entreprises, il n'y a pas de contrôle externe, c'est l'entreprise et qui doit, notamment qui publie pour ses actionnaires dans sa charte verte, qui va publier cet indice en disant, vous voyez, cette année on a progressé. En 2018, on annonçait, je ne sais pas si ça a été fait vraiment, en tout cas c'est en progrès, un modèle d'évaluation des conditions de travail à Pacte Sociaux. C'était très orienté au départ, davantage sur tout ce qui est consommation énergétique, transport, matières premières, etc. Et on attend un peu la communication aujourd'hui par certains qui ont ça dans leur gène et qui disent voilà, je suis, mais en général ils sont à 60 ou 70 sur cet indice, je suis et je progresse. Et c'est des gens qui sont, comme Patagonia par exemple, qui sont nés avec la fibre écologique au départ de la marche. Donc on ne peut pas les soupçonner d'autre chose puisque c'est leur projet. Mais pour les autres, effectivement, aujourd'hui, je n'ai vu personne dire ah ben on a tel indice, c'est 28 ou 29. Globalement, on serait passé, d'après le Copenhagen Fashion Summit et le cabinet d'audit BCG, qui utilise tout simplement les résultats de ces indices pour toutes les entreprises, il y en a plus de 200, hein, et des gros, hein, ça, c'est important, hein, ça pèse beaucoup, tous les gros ils sont, ils ne sont pas obligés, mais s'ils n'y étaient pas, ça se saurait. Et donc, vous voyez qu'on a progressé. On est quand même dans les 50, mais on est passé à 38, on était à 32, on est passé à 38 en un an. Et bon, pour aller vite, en fait, ceux qui sont en haut sont à 80, ce sont les champions, c'est Patagonia par exemple, ce sont ceux vraiment qui ont cela dans leur gène. Ceux qui sont forts aussi là-dedans, c'est les gens du sport, les Nike, etc. Ils affichent. Non, c'est de l'autoprogrammation aussi. Hein. Voilà. Et il ne faut pas croire que les HLM, etc., sont mal notés, se notent mal, puisqu'ils sont aussi des John Players, ils sont aussi bien notés. C'est plutôt des petites entreprises où tout ce qui est moyenne gamme, ou vraiment pas cher. Qui aujourd'hui a des indices qui sont perfectibles. Alors, le Fashion Summit montre, donc là c'est une échelle de temps, montre qu'une entreprise, au démarrage, elle veut progresser, elle a un indice qui est mauvais, elle veut progresser, elle va assez rapidement, quelque part, progresser vite en utilisant les books, quand il y a des choses à faire assez facilement qu'elle va pouvoir faire. Et après, il y a une espèce de plat, de stagnation, et si on ne change pas le modèle, c'est intéressant, je crois que c'est assez. Si on ne change pas le modèle, on n'y arrivera pas. On a une espèce de stagnation qui nécessite et de collaborer ensemble. De collaborer ensemble parce que chacun tout seul n'y arrivera pas. C'est un peu la manière de communiquer de ce sommet, hein, qui est à Copenhague, mais qui est il y a tous les grands patrons qui s'expriment là-dessus. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir. Donc voilà, ça c'est la fin. On va voir le changement de modèle. Alors déjà justement, la vision des cabinets de conseil. Donc là, vous avez justement les priorités du BCG par rapport à ce Copenhagen Fashion Summit dont on a parlé. Donc c'est la traçabilité, ce qu'on peut faire assez rapidement si une entreprise veut s'engager là-dedans, c'est tracer toute sa supply chain. C'est évidemment utiliser le moins possible et voir avec ses sous-traitants, etc., d'entrants, que ce soit de l'énergie, de l'eau, des produits chimiques. Essayer de respecter davantage, de faire des progrès en matière de conditions de travail. On ne parle pas de salaire, hein, de conditions et d'environnement du travail, c'est éviter le Rana Plaza. Bon, hein. Voilà. Et là, ce qui demande des efforts et des transformations qui sont plus difficiles à réaliser, qui demande vraiment un grand effort qui doit être pris en charge par la direction générale, et pas par le service développement durable, qui n'y arrivera pas, c'est essayer de trouver des nouveaux matériaux, donc ça c'est avec la recherche et le développement. Les grandes entreprises du sport le font constamment, parce qu'elles ont les moyens de le faire, les gens du luxe le font parce qu'ils ont les moyens de le faire, une petite entreprise effectivement ne peut pas. C'est travailler sur l'économie circulaire, c'est quand on conçoit un produit, ben justement, on évite que les cotons et les tissus ne soient pas recyclables. On forme le designer à cela. Au moment où il crée le produit, il doit savoir ce que ce produit deviendra facilement en fin de vie. Et puis, un système de salaire qui soit meilleur. Donc là, effectivement, aujourd'hui, c'est en voie de réflexion, il faut bien le dire. Et puis, la révolution, cette fameuse nouveauté, on ne fonctionne plus comme avant, on casse tout dans le bon sens du terme, on essaie de trouver un nouveau modèle. Voilà. Alors, McKinsey fait des recommandations aussi. Vous trouvez à peu près sur recycler. Alors, moi, j'aime bien, c'est qu'on encourage les consommateurs. En fait, c'est aussi un peu de la faute des consommateurs. On va encourager les consommateurs à prendre soin de leur maison. Voilà. Et alors, le dernier est vraiment magnifique. Mettre en place des mécanismes pour rendre les chaînes d'approvisionnement plus performantes.
Transparent.
Alors, on a des verdissements aujourd'hui de ces fameuses enseignes de la fast fashion qui sont quand même acculées quelque part à changer de modèle. Alors, H&M et CA, ce sont les plus gros consommateurs de coton bleu. Hein. Et donc, H&M a l'ambition d'ici 2030 de n'utiliser que des matériaux bio ou recyclés. Et ils ont lancé en Bourg, et paraît qu'ils vont le lancer également en France, un atelier qui conseille les clients pour prolonger la vie de leurs vêtements, pour les réparer, pour si tant est qu'ils soient réparables, si c'est comme un cuisine idéal qui paraît-il qu'au bout du deuxième, pas une cuisine ou un meuble idéal, au bout du deuxième démontage n'est plus tellement remontable, effectivement. Il faut que le tissu, pour être réparable, il faut que le tissu ait un minimum de tenue et de qualité. Mais en tout cas, voilà, ce sont des initiatives qui sont faites. Alors, le greenwashing a été inventé par un écologiste en 1986, donc ça fait un moment, pour décrire les entreprises voilà, qui se déclarent, mais pour booster leur vente. Pas du tout pour protéger l'environnement, mais juste parce que ça, c'est vendre. Et la responsabilité écologique tient désormais lieu d'identité à certaines riches. Moi, j'adore ce... Je l'ai repris, même si je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que des écoles de mode, j'ai vu des jeunes qui, vraiment, aujourd'hui, ont dans leur cœur de faire des choses bien. Il y en a beaucoup, heureusement. Mais c'est un peu vrai aussi dans le monde parisien. Hein. C'est un article du Monde, moi, je l'aime bien. Tous les étudiants se disent durables. Ils redisent un designer vingtenaire, mais pour la plupart, quand tu creuses un peu, tu vois que c'est du vent. Ils en font un argument purement marketing. Moi j'adore, on paraît sustainable, c'est aussi paraître cool, et ça ne dit plus d'être green. Hein. Green c'est vraiment. C'est fini. Voilà. C'est 2010. Voilà. Ce qui fait qu'il y a le risque que la mode durable devienne une tendance comme une autre. Hein. Donc il y a énormément de choses, il y a énormément d'émissions, il y a énormément de choses qui sortent aujourd'hui, et on en fait une tendance si on ne fait pas attention. Voilà, ça c'est révolte dans la mode. On peut, j'ai pas eu le temps de. Enfin, je ne pouvais pas passer de vidéo parce que je prends déjà assez de temps comme ça. Donc ce sont des internationales d'activistes qui font des choses. Ils font des choses, du recyclage, du coton de bleu, et puis aussi ils utilisent des vieilles machines. Alors il y a vraiment de l'ultra slow fashion. Hein. On réinvente un peu les choses parce qu'elles étaient avant. Alors. Pour aussi terminer tout ce qui est. Il y a énormément de fibres alternatives de R&D dans les matières. Alors, on fait les matières Orange Fiber, ça marche bien. Il y a 700 000 tonnes de déchets d'agrumes pour faire du jus de fruits. Et donc, ils arrivent à faire des tissus et il paraît que c'est pas si mal que ça. Hein. Voilà. Mais il y en a où il y a des impressions à partir de bactéries. Ça, on travaille aussi beaucoup, beaucoup là-dessus. Il y a des choses qui sortent. Et pour l'instant, c'est effectivement. Il n'y a pas de général, c'est coûteux, c'est difficile, on est vraiment sur les marchés libres. Moi j'adore la dernière, Charlie-La et Sadi, elle fait des vêtements à partir de bouts de poche. Alors trois process qui peuvent permettre d'innover quelque part dans la plus de transparence. La technologie blockchain, bon Carrefour l'utilise pour ses poulets bio. Qui permet de tracer totalement parce qu'on ne peut plus revenir dessus, on ne peut plus corriger. Par contre, ça dépend au départ de la manière dont l'entreprise a rentré. Mais une fois que c'est rentré. On ne peut plus corriger, on ne peut plus... c'est beaucoup, ils réfléchissent pour l'utiliser, donc effectivement, pour tracer, pour cette fameuse traçabilité totale depuis la matière première jusqu'à la vente au consommateur. Alors, les objets souples, c'est complexe. Moi, ça fait 40 ans que j'entends parler des Japonais qui essayent d'automatiser la confection. Quand vous allez dans un atelier, bah, le tissu il est souple et il y a quelqu'un qui est là pour le mettre sous la machine. Et on n'arrive pas à faire. On n'y arrive pas. on n'y arrive pas. Donc, je vous ai parlé de la maille. La maille, on peut le faire, la maille tubulaire, mais le textile, le soupe, nos vêtements tels qu'ils sont, il faudrait imaginer vos vêtements. Mais si on peut faire ce qu'on fait, aujourd'hui, on n'a pas trouvé. Alors, il y a des Californiens à Seattle. Alors, eux, le matériau souple, ils le plongent dans un polymère liquide pour le rendre dur. Après, ils le travaillent et après, ils dissolvent pour le rendre de nouveau souple. Bon. C'est une technique. Et puis, alors, l'impression 3D, alors, ça marche, hein, de plus en plus pour faire des chaussures. Nike, les utilise, etc., les semelles de chaussures, et tout ce qui est dur. Le plastique, les bijoux aussi, on fait très bien avec des métaux, etc. Donc, c'est une impression additive, hein, on ajoute des couches. Les vêtements, alors, il y a, voilà, il y a Iris von Arpen, une créatrice hollandaise, elle fait de très jolies choses. Donc, c'est une artiste, tout simplement. Je ne sais pas si on est en prête à mettre ça demain, mais c'est une artiste. Mais elle dit, je pense que pour, peut-être pour le prototypage, elle dit que ça lui permet de voir en 3D ce qu'elle a dans la tête et que c'est merveilleux et qu'aucune autre technique lui permet de faire ça. Mais après, je pense qu'elle fait des choses peut-être plus vendables. J'ai presque terminé. Donc, le luxe et le développement durable. Alors, Kering, donc avec François-Henri Pinault qui va donc s'occuper du G7 sur la mode en août, donc réduction de 40% des émissions. LVMH, comme vous savez, c'est comme pour Notre-Dame, hein, ils sont tous les deux, c'est à qui fera le mieux et à qui, entre LVMH et Kering, nous sommes dans des. Mais ils le font. Ne croyez pas qu'il fasse ça. Et on a Stella McCartney qui depuis longtemps a ça dans ses gènes, elle n'a plus de cuir. Elle procure toute l'utilisation de cuir. Alors, effectivement, ces grandes enseignes de luxe ont les moyens, parce que le côté, vu le prix de leurs vêtements, effectivement, le côté responsabilité, ils fabriquent en France ou en Italie. Le cuir est fait en Italie, le cuir chaussure, tout ce qui est ça, que Vuitton, etc., tout est fait en France. Et ils embauchent beaucoup de gens, ils créent des ateliers, ça il faut le dire. Et donc, ils font de la recherche en partenariat avec des startups. Vous voyez, des matières à partir de champignons, tamatissus et guillemets organiques, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et fabriquer du cuir en laboratoire sans avoir à élever des bêtes. Voilà. On a tout un tas de marques responsables qui sont certaines assez anciennes, comme Patagonia. Patagonia, c'est un peu la montre suisse de l'outdoor. Les Suisses disent, vous l'achetez, vous pouvez la transmettre à vos petits-enfants, on vous la réparera toujours. Le vêtement Patagonia est aussi réparé toujours. Donc il est revendu en seconde main, etc. C'est pas un vêtement qu'on jette. Il est pas fait pour être jeté. Il coûte cher. Et puis moi j'aime bien, alors Honest Buy, ce sont des Danois, je crois. Alors eux, ils donnent la liste de leur. Ils donnent toute la liste de leurs fournisseurs et il y a une décomposition du prix des produits. Donc eux, ils jouent sur la transparence. Et puis on a nos petits 1083, je ne vais pas parler du chiffre français, c'est des Dromois. Donc 1083, bah, c'est le kilomètre maximum, c'est-à-dire que tout. Sauf le coton, effectivement, mais le coton, alors, il s'engage à prendre du coton responsable, etc. Donc, tout est fait dans des ateliers, encore en France. Ça marche bien parce que les produits sont jolis en même temps. Et puis, Redon, alors eux, ils utilisent des circuits militaires et ils font des vêtements de mode. C'est recyclage, je crois. Mais il y a beaucoup d'autres. Je me dépêche. Donc voilà, 1083 par rapport à un jean de marque, c'est intéressant. Donc vous voyez que la fabrication, c'est 8% dans le jean de marque. 1083, le jean de marque qui n'est pas fabriqué en France, hein, c'est clair. Donc 1083, c'est 39% de la fabrication et c'est dans la marge de la marque, finalement, toute la marge commerciale, le marketing, etc. Ils ont vendu au départ directement sur Internet, maintenant ils vendent en boutique. Et donc, c'est là-dessus, donc plus de prix comme avant, en gros. Moins de marketing et de coûts de distribution, et plus de coûts de fabrication. Hein. Ils reviennent un petit peu à des modèles qu'on a connus dans les années 70. Les circuits parallèles, donc la seconde main, effectivement, le nombre entre 2010 et 2018, on a le nombre de consommateurs en France qui a doublé, ayant acheté au moins un produit de seconde main dans l'année. sur les vêtements, les ventes en ligne de seconde main, donc tout compris, les vêtements représentent, ça peut être aussi meubles, hein, les meubles et tout, la déco, etc., les meubles, les vêtements représentent un tiers. Alors, des nouveaux modèles, je vais les passer en vitesse parce que je trouve ça intéressant. On peut louer, c'est comme on loue des voitures, maintenant on n'achète plus de voitures, enfin, les gens les louent de plus en plus, en tout cas les jeunes urbains. On peut aussi louer des vêtements. Alors on a droit, par exemple, on paye un abonnement, on s'abonne, et on a droit à 5 nouveaux vêtements pour les femmes, par exemple, par mois. Et on les rapporte, et donc, on change. Donc on achète de la fast fashion, on aime la mode, et on se dit, on n'a pas de culpabilité, parce que finalement, on les jette pas, ils vont aller à quelqu'un d'autre, etc. Il y a l'occasionnel. On a, quand vous avez besoin d'un costume ou d'une robe de mariée, ou, on va louer une fois. On va louer une fois. Il y a vraiment ce qui fait pour durer. Là, je vous ai parlé de Patagonia. On les répare, on les fait vraiment au départ fabriquer avec des tissus, etc. Et puis, il y a la revente. Tout ça, ce sont 4 nouveaux modèles de consommation qui nous permettent de sortir de ce à quoi on aboutit en achetant toujours plus et en jetant toujours plus. Voilà, j'ai fini. C'est pour ouvrir le débat. Donc, une conclusion. On est dans un secteur plongé dans le bas-prix. Il y a une envolée des coûts de marketing. Il y a des enseignes de la fast fashion peu compatibles, un foisonnement de nouveaux acteurs. Et je ne voudrais pas oublier la fin, c'est qu'il y a des enjeux sociaux qui sont différents des enjeux environnementaux, c'est clair. Parce qu'il y a des pays comme Bangladesh, et notamment les femmes du Bangladesh, qui vivent du textile. Donc, se voient.